Donc nous allons passer cette fois-ci à Myriam Kousselmi, qui est assistante à l'Université de Carthage et prépare une thèse sur l'hybridité générique dans les œuvres de Abdelkebir Khatibi sous la direction de Samia Kassab-Charfi de l'Université du Neuf-Orléans.
Merci Monsieur le Président. Donc, je vais commencer ma communication par une petite citation de Ernesto Che Guevara. Donc je cite, « Surtout soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit le monde, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. » Fin de citation. Donc sous le gouvernement de Ben Ali, l'opinion publique n'existe pas comme dans les sociétés démocratiques. Car les libertés d'expression, les publications, la presse, le téléphone et Internet sont contrôlées et censurées. Les espaces publics étaient également perçus non comme une richesse que possède le peuple, mais comme des biens appartenant à l'État et plus précisément au président et à son parti politique. Ainsi, donc, les slogans sous le régime de Ben Ali n'étaient que des slogans imposés et subjectifs. Contrairement aux slogans inattendus de la Révolution, qui ne sont que des mots issus du fond du cœur et très expressifs, des slogans qui expriment la colère d'un peuple et ne tolèrent ni réponse ni excuse. Donc, j'essaierai tout au long de ma communication de faire une comparaison entre la langue de bois imposée par Ben Ali et le langage révolutionnaire, voire post-révolutionnaire, en me focalisant sur l'analyse des slogans. Ensuite, j'insisterai en particulier sur le côté universel et objectif des slogans. Donc avant d'entamer mon étude sur les slogans, je vais essayer de définir selon le petit Robert. Donc je cite, formule concise et frappante, utilisée par la publicité et la propagande politique, ainsi comme le dit le petit Robert, les slogans se caractérisent par leur concision, mais en même temps, les mots retentissent haut, fort et envahissent le monde. D'ailleurs, il y a des slogans comme par exemple celle de Che Guevara, Hasta la victoria siempre, toujours jusqu'à la victoire, ou le slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir, qui deviennent immortels et inoubliables par leur succès. Nous remarquons que les slogans les plus connus sont apparus lors de la période révolutionnaire, et en réalité, si nous essayons de trouver le sens étymologique du mot, nous verrons que c'est un mot issu du gaélique écossais qui veut dire « cri de guerre ». Donc c'est pour cela que je tenterai dans ma communication de décrire les slogans et les signes existants lors de la période du président déchu, tout en montrant en même temps la puissance des slogans révolutionnaires. Alors je vais commencer par présenter l'une des affiches les plus connues à l'époque de Ben Ali, et je vais analyser ce poster en me basant sur les points les plus importants. Alors les posters, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont visité la Tunisie et à l'époque de Ben Ali, et ils ont remarqué, surtout des étrangers, ils ont remarqué que les posters géants de Ben Ali, on les trouvait installés partout et dans toutes les grandes places. Et la plupart de ces affiches représentaient son portrait en gros plan sur un fond épuré, comme vous voyez ici, et il y a très peu de mots et très peu de décors, mais attire l'attention par un jeu visuel. Par exemple, donc, si je prends le cas de ce poster, il se caractérise tout d'abord par un gigantisme qui contribue à instaurer le culte de la personnalité du président. Et ensuite, il met en valeur la posture et le regard du président, qui sont bien sûr mis en valeur au premier plan et en face pour retenir notre regard. Ensuite, le sourire ici n'est ni trop ni pas assez. Il nous communique une impression qui exprime la confiance et la sérénité. De même, l'emplacement de la main droite sur le cœur nous transmet ce même sentiment de calme et de sérénité. Donc aussi, si nous essayons d'analyser la couleur, ici par exemple, la couleur de la cravate en rouge est un rappel du drapeau tunisien qui est en deuxième plan et il veut aussi montrer implicitement son dévouement à son pays, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Et là aussi, c'est une autre affiche où la posture est toujours mise en premier plan. Alors, ensuite, je vais citer un autre slogan imposé à l'époque de Ben Ali, c'est la redondance du chiffre 7. Alors, c'est vrai, le chiffre 7, ça paraît un symbole, mais en même temps, c'est un slogan. Pourquoi ? Parce qu'en 23 ans de règne, le chiffre 7 apparaît partout et il n'arrête pas de le rappeler dans les slogans électoraux. Par exemple, je prends le cas de cette phrase, Ben Ali sana tahrir. Ça veut dire Ben Ali est celui qui a changé la Tunisie. Et ce slogan est un rappel implicite de la période du 7 novembre 1987, le jour où Ben Ali a écarté du pouvoir le président Habib Bourguiba. Ainsi, le 7 s'était installé partout. Place du 7 novembre, rue du 7, avenue du 7, aéroport du 7, université du 7, épicerie du 7, stade du 7, café du 7, etc. Et même sur les billets de banque, si vous remarquez ici, on retrouvait le chiffre 7. Donc Ben Ali a voulu, à travers ses slogans et ses symboles éparpillés dans tout le pays, envahir le peuple par des illusions et ne construire un monde que dans l'imaginaire des gens. Donc le pouvoir persuasif des slogans et la puissance de leur signification implicite qui s'appuie sur un savoir commun et des croyances partagées n'ont pas vraiment réussi à convaincre la majorité des peuples pendant la période du régime, puisque d'une part, les slogans traduisent une pensée subjective et d'autre part, le peuple s'est rendu compte que les promesses du 7 novembre n'ont jamais été tenues. Les Tunisiens refusent d'être une nouvelle fois floués. De ce fait, la révolution a éclaté, même si elle était inattendue, et le type des slogans a totalement changé. On a devant nous ce que Raboul appelle les slogans manifestes, qui cherchent à montrer et non à démontrer. Les slogans qui sont apparus à cette période traduisent la colère du peuple. Donc après chaque apparition du président à la télé, lors des trois derniers discours, le peuple répond avec des slogans, et ces derniers ne font qu'exprimer l'état d'âme de tout un peuple opprimé pendant 23 ans. Ils apparaissent plus violents après chaque discours de Ben Ali. Les slogans lors de la période révolutionnaire ont donc joué un double rôle. Transmettre un message décrivant la colère d'un peuple et interrompre aussi le dialogue entre le président déchu et les Tunisiens, puisque généralement les slogans arrêtent tout échange. Donc avant, avec Ben Ali, c'était des slogans implicites, c'est-à-dire il essaie de nous transmettre des slogans, des idées implicitement, mais on n'a pas le choix. Et il n'y avait pas de dialogue. Ensuite, avec les Tunisiens, avec le peuple tunisien, c'était des slogans explicites. Et aussi, ils ont interrompu le dialogue avec le président déchu. Donc la majorité des slogans, les mots utilisés dans les slogans des révolutions arabes se caractérisent par leur nouveauté et aussi par leur universalité. Un seul mot retentit dans le monde et touche la terre entière. Le mot, par exemple, « hurriya », qui apparaît en arabe et en grand caractère sur la couverture du journal « Libération ». Donc la majorité des slogans de la révolution sont simples et brefs. Ils contiennent soit des dénonciations, soit des ordres. Ordre à Ben Ali et à sa famille de quitter le pays. Nous citons à propos donc quelques exemples. On a Ben Ali dehors, Ben Ali out, mafia out, liberté, freedom, hurriya, liberté. Donc ces slogans prononcés par les Tunisiens en différentes langues nous amènent à parler de la diversité linguistique et du multilinguisme. Juste, je voudrais parler à propos de l'intervention qui était avant moi de Madame
Jean-Claude.
Elle disait que les slogans, c'est-à-dire ils écrivaient les slogans en plusieurs langues et en même temps il y avait des fautes. Alors pour la Tunisie, il n'y avait pas de fautes, donc c'est-à-dire des slogans, c'est vrai, en différentes langues. Et tout simplement pour parler, pour montrer qu'on voulait vivre dans une diversité linguistique. Je voulais juste m'arrêter ici. Donc les slogans étaient brefs et qui réunissent plusieurs langues. Mais il y a aussi des slogans qui ont présenté comme des actes de langage. Par exemple, le slogan prononcé le 14 janvier, donc « Ettachril ». Ça veut dire « Le travail est un droit, bande de voleurs ». Cet énoncé est une dénonciation de l'État qui est posée comme l'interlocuteur dont l'interjection en arabe « yeh », ça veut dire « et » en français. C'est comme si le peuple parlait au nom de Bouazizi. Ainsi, on peut commenter ce slogan par cette phrase « Vous l'avez privé de son droit au travail alors que vous êtes une bande de voleurs ». Le « vous » réfère implicitement à l'État. Donc, comme nous venons de voir dans notre analyse précédente, plusieurs types de slogans sont apparus. Nous essayerons de voir d'autres formes de slogans qui sont nés lors de cette période révolutionnaire. Nous citons en ce sens le slogan suivant. Obama, yes we can, Tunisian, yes you do. Alors, on est ici face à un énoncé qui fait écho à un autre slogan utilisé par Obama lors de ses élections. Obama promet d'établir un changement politique et les Tunisiens s'engagent à faire un changement dans l'histoire de la Tunisie, histoire avec un grand H. Donc ce qui est frappant et inattendu aussi dans les slogans aussi, c'est le drapeau tunisien et de l'hymne national. Dans cette révolution, c'est comme si on est en train de vivre une seconde indépendance. D'où on entend dire toujours « c'est maintenant la vraie indépendance ». Donc je vais vous montrer quelques photos là où, par exemple, là c'est le peuple qui se réapproprie le drapeau tunisien et qui bondit dans les manifestations. Ici c'est le drapeau aussi de la nation porté par les manifestants à la Casbah le 25 février 2011. Et là c'est, on a beaucoup vu cette image. C'est pour défendre les droits de la femme. Et... Donc, comme nous venons de voir, la révolution tunisienne se caractérise par l'originalité et la spontanéité de ses slogans et par cette création inattendue au niveau des formes et des idées. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que ces mots retentissent partout et touchent le monde entier. Je parlerai alors dans cette dernière partie du caractère universel du slogan. Si nous analysons par exemple le slogan Ashab Yulid ou Esqat al-Nizam, le peuple veut renverser le régime. Cette affirmation prend la forme d'un engagement solennel puisqu'il impose sa volonté de renverser le régime. Le peuple prend en main son destin et se libère de la soumission d'un dictateur. Ce slogan a pu devenir universel puisqu'il a eu un écho immédiat dans les régions arabes, l'Égypte, la Libye, le Yémen, etc. Ce slogan a même été répété par les Occidentaux dans leur lutte contre le pouvoir financier. Alors, les slogans ont eu un très grand impact dans le monde, ce qui a créé un bouleversement social, un changement politique et aussi des créations inattendues en linguistique. Prenons le cas de la naissance du verbe « traversier ». Alors, même si, pour l'instant, c'est un néologisme, et il ne fait pas partie dans les nouvelles entrées des dictionnaires, mais c'est un verbe qui fait référence d'une manière générale à la famille, à la belle famille de l'ex-président tunisien Zine Abidine Ben Ali. Traversier est leur nom de famille. Donc ici, traversier, c'est un verbe transitif du premier groupe. Il a pour sens action de voler de grandes sommes d'argent, voler l'argent du peuple. Et on a comme exemple, si un pays se fait traverser, le peuple doit se tuniser. Alors pour conclure mon travail, je veux dire qu'après 23 ans de silence, le peuple se révolte contre le régime dictatorial de Ben Ali. vu que l'utopie visée par la classe dirigeante n'est jamais accomplie. Ainsi, la révolution tunisienne est d'abord à lire comme un événement de langage inattendu qui a cassé le mur de la peur et de l'autocensure lorsque des manifestants par milliers ont collectivement crié leur haine du régime. Elle a réuni toutes les classes sociales autour de slogans simples et pragmatiques qui ont catalysé la haine d'un régime policier et corrompu. Alors je terminerai ma communication par une citation qui résume en quelques mots donc, le sort des dictateurs contre-révolutionnaires. C'est une citation de Vincent Cespès. Donc je cite « Le bonheur fait notre jeu et le malheur c'est le moi sans jeu. Le tout moi, le moi devenu tyran, le bonheur, identité nomade, s'identifiant et se désidentifiant au gré de nos vagabondages intimes, le malheur, identité sédentaire, contre-révolutionnaire.